VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manerakidze à la présentation de cette édition du lundi 13 septembre 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Nigeria, libération de dizaines d'étudiants enlevés, une base militaire et une prison ont été attaquées. Au Burkina Faso, 374 enfants sauvés de la traite entre janvier et mars. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett en Égypte, une première depuis 2011. Le gouvernement à Kaboul n'est pas représentatif de tous les Afghans, déplore Téhéran. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Nigeria, des assaillants armés ont tué 12 soldats dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest. Dans un autre état, celui de Kogi, des hommes armés ont pris d'assaut une prison, libérant des dizaines de détenus. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après Francis Enobore, porte-parole de l'administration pénitentiaire, les assaillants sont venus en nombre et ont engagé de violents échanges de tirs avec les gardes armés de la prison de Kaba dans l'état de Kogi. Ils ont ensuite envahi la prison où se trouvaient 294 prisonniers et en ont libéré 240. Le 5 avril, lors d'une attaque similaire, des hommes armés ont pris le QG de la police d'Oweri dans le sud-est et libéré plus de 1800 prisonniers. Par ailleurs, samedi, des hommes armés non identifiés ont tué 12 soldats lors de l'attaque d'une base militaire à Mutunji dans l'état de Zamfara dans le nord-ouest. Les assaillants ont pris d'assaut la base et ont engagé les troupes dans une violente fusillade, a déclaré une source sécuritaire. L'armée dit avoir engagé des opérations contre des bandes criminelles à Zamfara. D'ailleurs, hier soir, 75 élèves et des enseignants qui avaient été enlevés le 1er septembre d'un lycée public de Kaya ont été libérés.
Au moins 4 gendarmes burkinabés ont été tués dimanche et plusieurs sont portés disparus lors d'une attaque par des djihadistes présumés contre un convoi militaire dans l'est du Burkina Faso, selon un nouveau bilan annoncé lundi par le gouvernorat de la région. Au Burkina Faso, 374 enfants ont été interceptés et sauvés de la traite entre janvier et mars. D'après les autorités burkinabées, ils étaient en route vers des pays voisins où ils devaient être exploités dans des champs ou des mines artisanales. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le décompte de 374 enfants, bien qu'alarmant, ne concerne que le premier trimestre de l'année 2021, a révélé ce lundi Hélène-Marie Laurence Ilboudeau, la ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire. Selon elle, 2318 enfants avaient déjà été interceptés en 2020. Ces enfants âgés de moins de 16 ans pour la grande majorité et destinés à travailler dans des plantations, des mines artisanales ou pour des travaux domestiques dans les pays voisins ont été interceptés lors de contrôles de bus ou sur dénonciation selon le ministère. Importante destination du trafic des enfants, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a intercepté et rapatrié des mineurs utilisés pour le travail dans les champs. Par ailleurs, 58 enfants rencontrés lors des opérations de sécurisation du territoire par les forces de défense et de sécurité ont été remis aux services sociaux, a fait savoir Mme Ilboudeau, pointant également l'ampleur du phénomène des enfants des rues.
Le procès devant la justice finlandaise de l'ancien chef rebelle Djibril Massaquoi pour des crimes commis au Libéria pendant la guerre civile a repris lundi à Monrovia. Djibril Massaquoi, citoyen de la Sierra Leone voisine, comparé pour une série de meurtres, viols et actes de torture perpétrés au Libéria par lui-même ou des rebelles du Front révolutionnaire uni, RUF, entre 1999 et 2003. La Ligue de défense noire africaine va être dissoute en France, a annoncé lundi le ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qualifiant l'organisation de raciste. Les discours de cette structure appellent à la haine et à la discrimination, a écrit le ministre sur son compte Twitter. Plusieurs politiques, dont des membres du Rassemblement national extrême droite, demandaient la dissolution de l'association, notamment depuis une manifestation organisée contre les violences policières en juin 2020 devant l'ambassade des États-Unis. Deux femmes accusées de sorcellerie ont été tuées par des habitants dimanche dans un village du territoire de Fizi dans l'est de la RDC, région où trois autres personnes ont été tuées pour la même raison depuis le début de l'année, a-t-on appris lundi auprès des autorités locales. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a nommé à la tête du très stratégique ministère de l'énergie January Makamba, limogé du gouvernement en 2019 par l'ancien chef de l'État John Magufuli, qui l'accusait de l'avoir critiqué. Samia Suluhu Hassan a également nommé deux femmes au poste de ministre de la Défense et de ministre de la Communication et des Technologies de l'Information dans le cadre d'un léger remaniement annoncé hier nuit. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a déclaré lundi redouter une propagation du conflit dans la région du Tigré à toute la corne de l'Afrique, accusant toutes les parties d'exactions. Le programme alimentaire mondial PAM a annoncé lundi la suspension de l'aide alimentaire à plus de 100 000 personnes déplacées au Soudan du Sud à partir du mois prochain et jusqu'à janvier en raison d'un manque de financement. L'Agence humanitaire des Nations Unies a signalé que 380 000 personnes ont été touchées par de fortes inondations qui ont englouti des terres agricoles, submergé des maisons et déplacé des familles.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran et les Nations Unies jugent le gouvernement afghan non inclusif. Il s'agit des dernières réactions à la mise en place de cette équipe partielle par les talibans, composés essentiellement de membres de l'ethnie pashtoun, avec l'absence notoire de femmes. Le point avec Abdulrahman Dia.
Pour le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, le gouvernement intérimaire afghan n'est certainement pas le gouvernement inclusif que la communauté internationale et la République islamique d'Iran attendent. Téhéran appelle toutes les parties à négocier un gouvernement représentatif de la diversité du pays frontalier de l'Iran, majoritairement chiite, alors que les talibans sont d'obédience sunnite. L'Iran, qui accueille déjà plus de 3 millions d'Afghans, redoute en outre un nouveau flux de réfugiés sur son sol. De son côté, la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, s'est déclarée déçue du manque de diversité du gouvernement des talibans et s'est inquiétée du traitement des femmes et de la répression des voix dissidentes. Elle se dit inquiète en raison du fait que, contrairement aux engagements des talibans de maintenir les droits des femmes, ces trois dernières semaines, les femmes ont au contraire été progressivement exclues de la sphère publique. Madame Bachelet a également dénoncé les recherches en porte-à-porte de membres de l'ancien gouvernement, de militaires ou de gens ayant travaillé avec les forces étrangères, ou encore les menaces et tentatives d'intimidation contre des ONG ou des employés de l'ONU, contrairement aux promesses d'amnistie faites par les nouveaux hommes forts de Kaboul.
Le chef de l'ONU a lancé lundi un urgent appel à l'aide pour l'Afghanistan au début d'une réunion ministérielle qui doit permettre de lever plus de 600 millions de dollars d'aide, mais aussi réaffirmer les droits des Afghans menacés par les talibans. Les Afghans ont besoin d'une bouée de sauvetage pour faire face à ce qui est peut-être leur heure la plus grave, a annoncé Antonio Guterres. Joe Biden effectue lundi un voyage dans l'Ouest américain pour défendre ses arguments sur le changement climatique et les grands investissements. Le président se rend aussi en Californie, fief démocrate, qui n'avait pas visité depuis son élection, pour soutenir le gouverneur Gavin Newsom, confronté à un référendum qui pourrait lui coûter son poste. En Égypte, dans le Sinaï, le président Abdel Fattah al-Sissi a rencontré ce lundi le premier ministre israélien Naftali Bennett pour relancer le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. C'est la première visite d'un chef de gouvernement israélien depuis plus de 10 ans en Égypte. Claire Morégibourg.
C'est à Sharm el-Sheikh, sur la mer Rouge, que le président Abdel Fattah al-Sissi a rencontré le premier ministre israélien une dizaine de jours après avoir reçu le président palestinien Mahmoud Abbas. Le président égyptien renoue avec des rencontres au sommet qui étaient fréquentes jusqu'à la révolte populaire de 2011 en Égypte. Les deux hommes ont évoqué les efforts pour relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens au point mort depuis 2014, a précisé le porte-parole de la présidence au Caire. Dimanche, en proposant d'améliorer les conditions de vie des Gazaouis en échange d'un engagement au calme du Hamas, le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, a encore une fois rappelé l'importance vitale de l'Égypte. L'un des thèmes principaux de ces pourparlers sera la situation dans la bande de Gaza, où l'Égypte a aidé à négocier un cessez-le-feu après 11 jours du conflit en mai dernier entre Israël et le Hamas.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez ce soir Nathalie Barge pour la Minute Éco.
Le président congolais Félix Tshisekedi exige une évaluation des projets liés au contrat sino-congolais signé en 2008 par son prédécesseur Joseph Kabila. L'ex-président avait négocié un contrat sous forme de troc cobalt et cuivre contre la construction d'infrastructures avec un consortium chinois pour 6 milliards de dollars. Au Cameroun, l'agence de régulation des télécommunications menace de sanctions une centaine d'exploitants et fournisseurs, indique un communiqué de l'ART publié ce 13 septembre. Il leur est reproché de ne pas avoir transmis le rapport annuel d'activité de l'exercice 2020 et des exercices antérieurs. Ces sociétés ont jusqu'au 24 septembre pour se soumettre à cette obligation. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole estime que la demande mondiale de brut devrait dépasser son niveau d'avant la pandémie l'an prochain. La croissance de la demande doit atteindre en 2022 4,2 millions de barils par jour. En août, les pays de l'OPEP avaient légèrement augmenté leur production. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Irak avaient pompé plus, tandis que la production avait baissé au Nigeria.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le week-end a été marqué par les matchs allés du premier tour des préliminaires des Coupes africaines. En Coupe de la Confédération, Binga FC de Bamako a battu Breweries FC du Libéria 3-0 au stade Modibo Keïta de Bamako. Pour Ousmane Guindo, coach du club malien, il ne faut pas s'affoler, mais plutôt se concentrer sur la manche retour.
On est content, mais il ne faut pas s'affoler. On a fait la première manche, il nous reste le match retour. Parce qu'eux aussi, ils vont tout mettre en œuvre. Mais l'essentiel était de gagner ici d'abord pour se donner plus de confiance. C'est une jeune équipe, on aurait pu marquer plus que 5 buts. Mais on va essayer de préparer davantage le match retour, parce que rien n'est fait pour le moment. On a fait un premier pas et maintenant, il faudrait se concentrer sur le match retour.
Ousmane Guindo, coach des Maliens de Binga FC, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Toujours en Coupe CAF, les Béninois des Buffles du Bourgou ont mal voyagé au Maroc. Ils ont été battus 3-1 par les militaires des forces armées de Rabat. Belle victoire des Sénégalais de Diambars 3-0 face aux Guinéens de Wakria en un seul match. Même score en faveur des Togolais de l'ASK. Devant les Mauritaniens d'Aza Concorde, 0-0 entre les Burkinabés de l'Asfa Yenega et les Ivoiriens du FC San Pedro, 0-0 également entre les Gabonais de Manga Sport et les Botswanais d'Orapa United. Match aller du premier tour des éliminatoires en Ligue des Champions également, la SEC d'Abidjan a pris une sérieuse option pour le tour suivant en battant sur leur propre terrain les Sénégalais de Tengueuf 3-0. Le stade malien a eu raison des Burkinabés de l'AS Onabel 1-0 dans un match délocalisé à Yaoundé. Ça commence mal pour les Algériens du CRB Louisdad battu 1-0 au Nigeria par Akwa United. Le second représentant du Nigeria, Rivers United, remporte aussi son match aller, mais à l'extérieur, 1-0 sur le terrain des Tanzaniens de Young Africans. Belle victoire en déplacement des Zambiens de Zanaco 2-0 à Malabo face à Akonangi. Et des Libyens d'Al Ittihad chez les Zanzibar de Kikosi. Grosse performance pour les Gambiens de Fortune qui ont pulvérisé 3-0 les Algériens de l'entente de Sétif. Courte victoire par contre des Mozambicains de l'US Songo 1-0 qui recevaient les Congolais de l'AS Otoyo. Beaucoup de matchs nuls enregistrés, 1-1 concédé par les Gabonais de Bougouindi Sport face à Maniema Union de la RDC. Même résultat entre les Djiboutiens d'Arta Sola et les Kenyans de Tousker. Volleyball, le Cameroun est le premier qualifié pour la finale de la CAN masculine qui se joue à Kigali au Rwanda. En demi-finale, les Camerounais se sont imposés au bout du suspense par 3-7 contre 2 pour le Maroc. Dans la seconde demi-finale, la Tunisie, tenante du titre, joue l'Égypte.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les activités sont restées paralysées à Beni après un appel de 2 journées ville morte lancé par la société civile. C'est pour dénoncer l'insécurité grandissante dans la région, alors que la province est sous état de siège. Zanem Neti Zaidi pour plus de détails.
Les activités ont tourné au ralenti ces lundi à Beni. Des commerçants ont fermé leurs magasins, boutiques et autres commerces. Ils répondent à l'appel de la société civile qui a décrété 2 journées ville morte à partir de ces lundi. Les transports publics et les taxis-motos ont circulé timidement. Paluku Maliabo, chauffeur des taxis-motos, dénonce l'inefficacité de l'état de siège.
Dans la ville de Beni, nous vivons dans l'insécurité. On espérait trouver des solutions grâce à l'état de siège, mais on est surpris et désolé de voir que la situation s'est dégradée plus qu'avant même cette mesure. Nous ne passons pas de nuits paisibles à cause des cambriolages ici et là. Même nous, taximens, souffrons. Nous sommes souvent arrêtés en chemin par des bandits qui nous volent argent et téléphone. Nous ne voyons pas la nécessité de cet état de siège.
Kambale Sikouli est habitant de la ville de Beni. Ce commerçant a souvent été victime de l'insécurité dans la région. Il est témoin oculaire d'un viol sur une jeune fille mineure quand la contrée a été attaquée par le présumé EDF. Il demande aux autorités de rétablir la paix.
Nous refusons de travailler car l'insécurité est grandissante. Nous ne savons plus quoi faire. Ici chez nous, on commence même à violer nos parents et même nos enfants sous nos yeux. Nous pensons qu'en fermant nos entreprises en guise de mécontentement, va pousser les autorités de nous chercher une solution. Nous voulons d'abord que les autorités rétablissent la paix, sinon nous n'allons pas reprendre les activités.
Au centre-ville de Beni, des incidents ont été enregistrés pendant le couvre-feu décrété par les autorités militaires. Des bandits opèrent même en uniforme de l'armée ou de la police, déplore John Kambale, rapporteur général de la société civile qui plaide pour la levée du couvre-feu.
Nous avons appelé la population de rester à la maison, méditer et réfléchir sur la situation de sécurité de la ville. Nous pensons que ça sera une solution. Ça va permettre aux autorités de voir à quel degré, d'abord de s'évaluer et de voir à quel degré la population en a marre de l'insécurité qui prévoit en ville comme en territoire de Beni.
Rappelons que cela fait 4 mois environ que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées en état de siège décrété par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi pour assurer les contrôles de la situation sécuritaire dans ces provinces, une mesure qui présente déjà un bilan mitigé selon plusieurs membres de la société civile. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
En Côte d'Ivoire, les élèves du primaire et du secondaire ont repris ce lundi 13 septembre le chemin de l'école après des mois de vacances scolaires. Pour cette rentrée, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Kone Marietou, a annoncé des mesures dont le rétablissement de la dictée, le retour du redoublement au primaire, défis et perspectives de l'éducation en Côte d'Ivoire, Odile Pohan, psychopédagogue et inspectrice dans l'enseignement primaire.
Je pense qu'il faut d'abord aller sur ce qui s'est passé. Le PASEF, qui est un programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, qui a pour rôle de mesurer, d'évaluer la qualité des systèmes éducatifs en Afrique francophone. La Côte d'Ivoire a été classée 21e. Et qu'est-ce qu'un ministre responsable va faire? Il va tenir compte de ce rapport pour essayer déjà d'asseoir un système qui va nous amener à résoudre le problème évoqué, parce qu'on vous fait des remarques et on vous propose des solutions.
On parle pour cette rentrée, Madame Pouane, du retour à l'école, de la dictée et du redoublement des classes en particulier. Ces mesures vous paraissent-elles pertinentes pour relever le niveau?
La population se plaint. Les enfants d'aujourd'hui ne parlent plus français. Ils écrivent en style réseaux sociaux, en style internet, c'est-à-dire qu'en style message. Donc voilà que on va se dire ce qu'on va faire rapidement, ce qu'on va mettre en place qui ne va pas demander des grands moyens, parce que c'est vrai, il y a d'autres priorités. Le redoublement, je dis, je suis d'accord. Vous ne pouvez pas faire passer des enfants qui ne savent pas lire et arriver dans les classes d'examen. Il n'y a pas d'examen pour des enfants faibles et des enfants forts. Donc, il faut quand même qu'on puisse amener les enfants déjà à être motivés, à avoir le goût des études pour savoir que quand je passe, c'est que j'ai travaillé pour passer. Moi, je pense réellement que toute personne qui regarde le système ivoirien n'a pas applaudi le passage automatique. Il faut quand même qu'il y ait l'excellence et l'excellence se mérite.
Ces ajustements, Madame Pouane, même s'ils sont applaudis, suscitent des réserves de la part des partenaires de l'éducation en Côte d'Ivoire. Que faut-il faire pour accorder les esprits?
Est-ce que faire revenir la dictée, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que dire qu'un enfant qui n'a pas travaillé, il faut lui laisser renforcer cette capacité? Oui, je ne peux pas dire que ceux qui se plaignent n'ont pas raison parce qu'ils se disent quoi? Ce n'est pas la seule chose qui va faire qu'un enfant va travailler. Il y a l'effectif pléthorique, il y a tout ce qu'on peut reprocher comme infrastructure pédagogique, didactique, tout le reste. Donc, il y a d'autres éléments sur lesquels on peut. Mais comme ça ne demande pas de grands moyens, essayons. Et je pense que le fait que Madame la ministre ait proposé les états généraux, ça veut dire que c'est une personne qui est sociologue et qui tiendra compte de tout ce qu'on va dire là-bas. Mais je pense qu'il y aura un acquis, il y aura une plus-value au niveau des enfants.
Madame Odile Pouan, psychologue, pédagogue et inspectrice dans l'enseignement primaire, jointe à Abidjan par Jean-Roger Villon.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Guinée, le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé le début, à partir de demain mardi, d'une série de concertations en vue de la mise en place d'un gouvernement de transition. Toutes les composantes nationales sont ainsi conviées à des rencontres avec le Conseil national pour le rassemblement et le développement. Les précisions avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
La série d'échanges entre les nouvelles autorités militaires du pays et les acteurs sociopolitiques guinéens se tiendra au Palais du Peuple à Conakry. Ce sont les leaders des partis politiques qui ouvrent ces concertations. Rentré samedi d'Abidjan, l'ancien Premier ministre Sidya Touré se dit prêt à mettre son expérience au service de l'intérêt général.
Rien ne peut se faire dans l'exclusion. C'est le chemin de l'unité qu'il faut emprunter ici et maintenant, car nous n'avons pas d'autre option. Pour ma part, je renouvelle mon engagement patriotique à mettre mon expérience d'homme d'État, mon amour de la Guinée ainsi que mes contacts en Afrique et dans le monde au service de l'intérêt général pour une gouvernance vertueuse dans un pays en paix avec lui-même, avec ses voisins et avec ses partenaires internationaux.
Le dialogue inclusif qui s'ouvre semble rassurer Dr Ousmane Taba, proche d'Alpha Condé, devenu opposant. lui aussi offre toute sa disponibilité à la junte au pouvoir.
Nous avons exprimé notre disponibilité à aider les nouveaux dirigeants parce que en réalité nous avons tous intérêt à ce que cette transition soit une bonne transition. Elle ne peut pas l'être si nous tournons le dos et que les uns et les autres sabotent la transition.
Ces concertations vont se poursuivre jusqu'au vendredi. Après les leaders des partis politiques, suivront d'autres invités. Il s'agit des représentants des coordinations régionales, les chefs religieux, les présidents des organisations de la société civile, les représentants des missions diplomatiques, les représentants des associations des Guinéens de l'étranger, les patrons des différentes sociétés minières implantées en Guinée, les présidents des différentes organisations patronales, les directeurs des banques primaires et microfinances et les représentants des différentes centrales syndicales. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine. L'agenda socio-économique de Joe Biden face à un congrès divisé. Fortement critiqué sur le retrait chaotique des troupes américaines d'Afghanistan, le président américain tente de se relancer en remettant sur la table son plan de réforme sociale de 3 500 milliards de dollars. Un plan désormais sous menace avec les réserves d'un sénateur démocrate modéré et d'un camp républicain foncièrement contre. Joe Biden et les démocrates peuvent-ils surmonter les obstacles à la mise en place de leur programme à un peu plus d'un an des élections de mi-mandat? Rendez-vous ce jeudi à 19h.
Ici aux États-Unis, l'annonce par le président Joe Biden que la vaccination contre le coronavirus sera bientôt obligatoire pour certains travailleurs provoque un tollé chez des législateurs républicains qui envisagent des poursuites judiciaires contre l'administration américaine. Michel Quinn nous en dit davantage. Récit Jacques Aristide.
No forced COVID vaccines.
Les critiques sont catégoriques. Rendre la vaccination anti-COVID-19 obligatoire outrepasse le rôle du gouvernement fédéral. Cette démarche de l'administration Biden va entraîner davantage de résistance chez les Américains non vaccinés, ajoute-t-il. Le gouvernement demande à certains employeurs de s'assurer que leurs employés soient complètement vaccinés ou se soumettent à des tests hebdomadaires. Les entreprises qui enfreignent cette mesure s'expose à des amendes pouvant aller jusqu'à 14 000 dollars. Le gouverneur républicain de l'Arkansas, Asa Hutchinson, a fait part de son point de vue dans l'émission Meet the Press sur la chaîne NBC.
Le problème, c'est que j'essaie de vaincre la résistance, mais les actions du président avec une telle requête durcissent cette résistance.
Selon l'université Johns Hopkins, les États-Unis comptent près de 41 millions de cas confirmés et 660 000 morts. Environ 74% des Américains de 12 ans ou plus ont reçu une dose du vaccin anti-Covid, d'après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, alors que le rythme de vaccination a augmenté ces dernières semaines. Mais les autorités craignent une propagation continue du coronavirus jusqu'à ce que davantage d'Américains soient vaccinés. À ce jour, 19 gouverneurs républicains ont fait part de leur intention d'intenter un procès à l'administration démocrate. Ils soutiennent que l'obligation vaccinale est inconstitutionnelle. Quant à l'administration Biden, elle dit se focaliser sur les domaines où le gouvernement fédéral a autorité, tels que les nombreux établissements de santé qui touchent environ 17 millions de travailleurs, de même que les lieux de travail avec plus de 100 employés, ce qui concerne environ 80 millions d'Américains. Vivek Murthy, le médecin-chef des États-Unis, lors d'un entretien dans le programme This Week de la chaîne ABC.
Nous pensons que c'est une action appropriée et c'est certainement du point de vue de la santé publique. Le plus important est que cela aidera à assurer la sécurité des travailleurs et en fin de compte aidera aussi notre économie.
Le président Joe Biden a également signé récemment un décret exigeant le vaccin anti-Covid pour les personnes qui travaillent pour le gouvernement fédéral en tant qu'employés à plein temps ou comme sous-traitants. L'obligation vaccinale pour les travailleurs survient à un moment où 62% des Américains sont d'avis que les conditions économiques sont mauvaises, selon un récent sondage de la chaîne CNN. Le président Biden se dit convaincu que la mesure conduira à la vaccination de plus de personnes au lieu d'accroître la résistance au vaccin, ce qui va aider à améliorer l'économie du pays, conclut-il.
« C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Bureau Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagnot, Michel Claire Joseph, Lionel Manila Gahima et José Le Morissin. Eric Manila Kiza a été à la présentation, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.